Bonjour à tous. Pour introduire notre culte, nous allons lire dans Actes. Pour continuer notre culte, nous allons lire dans Actes 1, versets 1 à 3. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. 40 jours. Entre Pâques, le jour de la résurrection, et l'ascension, le jour où Jésus retourne vers son Père céleste. 40 jours, vite passés, après un ministère actif de 3 années, pendant lesquelles Jésus a enseigné ses disciples et démontré qu'il était le Messie, envoyé par Dieu pour assurer le salut des hommes. Ce matin, nous allons nous intéresser à cette période tout à fait spéciale, mais indispensable pour attester la qualité divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire dans les 4 évangiles où chaque auteur, avec sa propre sensibilité, décrit ces 40 jours exceptionnels et nous lirons les récits qui racontent la période après le jour de Pâques. Donc le jour de Pâques même, il y a eu l'apparition de Jésus au tombeau avec Marie et sur le chemin d'Emmaüs. Donc on va passer le jour d'après, après la rencontre des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Donc en premier lieu, nous allons lire dans Marc 16, versets 14 à 20. Enfin, il apparut aux 11, donc c'est Jésus, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Deuxième passage, Matthieu 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans Luc 24, versets 36 à 51. Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même, donc toujours Jésus, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous !» Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Le quatrième passage, c'est dans Jean, Jean chapitre 20. À partir du verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez ». Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car ils étaient nus, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez manger !» Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'ils étaient ressuscités des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, Jésus lui dit, paix mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu ? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant parlé ainsi, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre ? En le voyant, Pierre dit à Jésus et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais « si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Voilà, ça fait pas mal de lectures pour ce matin. Quatre évangiles, quatre auteurs, quatre récits qui racontent chacun à sa façon ces 40 jours. D'après les spécialistes de l'étude des textes bibliques, il paraît que l'évangile de Marc aurait été écrit en premier, non pas immédiatement après les événements, mais plutôt 25 à 35 ans plus tard. Ce n'est que plusieurs années après ces événements qui viennent d'arriver que les contemporains des personnes qui ont vécu avec Jésus ont été amenés à passer d'une transmission orale des récits de la vie de Jésus à une rédaction écrite, à laquelle nous avons accès aujourd'hui. Donc Marc a travaillé avec sa mémoire. Il n'était pas l'un des 12 disciples de Jésus, mais apparemment il était un proche de Pierre, qu'on appelle aussi Simon ou Céphas. Et il raconte dans son évangile la vie de Jésus, le Fils de Dieu envoyé parmi les hommes pour annoncer la bonne nouvelle. Pour comprendre le message de Dieu aux hommes et aux femmes, à travers les récits de la Bible, il est important d'étudier et de faire des recoupements entre les différents récits pour retenir ce qui est essentiel et vrai. L'évangile de Marc a apparemment été rédigé à Rome, probablement pour un public pas forcément d'origine et de culture juive. Il dit que Jésus apparaît aux 11 disciples à table, par exemple. L'évangile de Matthieu, lui, disciple de Jésus, donc qui a vécu à ses côtés pendant 3 ans, a rédigé son évangile après Marc et a rajouté ses propres souvenirs. Il a amené des précisions, il a amené des choses un petit peu qui étaient plus de sa sensibilité et pour un public plutôt de culture religieuse juive. Il a vraiment essayé de prouver que Jésus répondait exactement aux prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient la venue du Messie. 5 versets à la fin de l'évangile de Matthieu, suffisent à rendre compte de ces 40 jours entre Pâques, après Pâques. D'après lui, Jésus a rencontré les 11 en Galilée, a confirmé qu'il était le Fils de Dieu à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus était donc bien le Messie envoyé par Dieu. Dans l'évangile de Luc, le texte est un petit peu plus long. Là encore, Jésus rencontre les 11 disciples. Il leur prouve qu'il est bien vivant, qu'il a un corps avec des cicatrices de ses souffrances récentes et un corps qui a besoin de se nourrir. Au verset 45, Jésus ouvre l'esprit des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Nous aussi, pour comprendre les Écritures, nous avons besoin que Jésus nous ouvre l'esprit. Luc était apparemment un proche de Paul, mais également un contemporain de Jésus et probablement un des marcheurs du chemin d'Emmaüs. Luc a également rédigé les Actes des Apôtres qui racontent les débuts de l'Église chrétienne. Luc rédige son évangile alors qu'il est à Rome en détention avec l'apôtre Paul. D'après son récit, Jésus conduisit ses disciples jusque vers Béthanie, où il fut enlevé au ciel. Sur une carte, Béthanie se trouve à côté de Jérusalem, alors que la Galilée se trouve à peu près 150 km au nord. Donc, d'après Matthieu, l'ascension de Jésus est partie de la Galilée, et d'après Luc, elle est partie de Béthanie à côté de Jérusalem. Pour Matthieu, l'ascension de Jésus n'était pas au même endroit que pour Luc. Voilà encore un détail qui fait dire à certains que la Bible présente des imprécisions. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où plusieurs milliards de personnes se disent chrétiens sur toute la terre. Même dans notre pays, les évangéliques de toutes sortes côtoient les protestants, les catholiques et les orthodoxes. Chacun de ces groupes base sa doctrine sur des récits bibliques et nous sommes tous d'accord sur l'essentiel qui est que Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur terre pour sauver les pécheurs que nous sommes, à condition de le reconnaître comme Seigneur de notre vie. Les détails de l'interprétation conduisent à des différences de pratiques religieuses et de traditions. L'ascension de Jésus a-t-elle eu lieu en Galilée ou à Béthanie? C'est un détail par rapport à l'essentiel. Et Matthieu et Luc n'ont pas jugé nécessaire de faire une recherche approfondie sur un événement qui s'évoque une trentaine d'années après les faits. Ils étaient vieux tous les deux, et beaucoup d'eau avait coulé sous les ponts entre le moment où Jésus est monté au ciel et la fin de la rédaction des évangiles. On pourrait imaginer également que Jésus ressuscité rencontre un de ses disciples, lui dit de prendre du papier et un stylo et lui dicter directement ce qu'il faut retenir de son passage sur terre. Il aurait pu le faire. Mais nous savons que Dieu a toujours laissé énormément de liberté à l'homme et à la femme qu'il a créé. Liberté de choisir de consommer ou non le fruit défendu. Liberté de choisir d'obéir aux 10 commandements ou non. Liberté d'accepter Jésus dans son cœur, personnellement ou non. Liberté de vivre en disciple de Jésus ou non. Liberté de faire le bien ou le mal autour de nous. Marc, Matthieu et Luc ont eu la liberté de raconter et de décrire, chacun à sa façon, les 40 jours entre Pâques et l'Ascension. Pour ces trois auteurs, Jésus avait fait son travail de pédagogue et d'enseignement, il avait rempli sa mission de Fils de Dieu sur la terre, et après sa résurrection, il a simplement confirmé son statut divin et envoyé les disciples en les équipant pour que la bonne nouvelle soit annoncée sur toute la terre. Dans toute l'histoire de l'humanité, Dieu intervient ponctuellement et ensuite il laisse les hommes et les femmes faire le travail. Après la création, soyez féconds, remplissez, multipliez-vous. Après la sortie d'Égypte, observez les commandements que j'ai donnés à Moïse. Et après la résurrection de Jésus, maintenant annoncez la bonne nouvelle sur toute la terre. Pour Jean, notre quatrième auteur, c'est un peu différent. Le texte est plus long, son implication personnelle est plus marquée. Jésus apparaît plusieurs fois à différents endroits et pour délivrer différents messages. Jésus est évidemment transformé, on ne le reconnaît pas immédiatement physiquement. Il peut entrer dans une maison dont les portes et les fenêtres sont fermées. Il se déplace, il se transporte d'un endroit à un autre sans difficulté, comme dans un film avec des effets spéciaux permanents. Jean nous raconte l'histoire de Thomas, l'incrédule. « Je crois que ce que je vois. » Et c'est pour nous dire « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru » que Jean rapporte cette parole. Cette parole s'adresse donc à toutes les générations qui n'ont pas eu le privilège de vivre avec Jésus sur terre en son temps. Jean s'attarde à la fin de la rédaction de son évangile. Ces 40 jours entre Pâques et l'Ascension, il aurait aimé qu'il dure plus longtemps. Il se sentait bien au contact de Jésus. La pêche miraculeuse sur les bords de la mer de Tibériade n'est décrite que dans cet évangile. Il s'en souvient parce que ça lui rappelle le bon vieux temps et la multiplication des pains et des poissons, de la tempête apaisée par Jésus lors des traversées dangereuses. Il se rappelle également que Pierre, comme tous les autres disciples, ont abandonné et même renié Jésus par les... et même renié Jésus lorsqu'il a été arrêté pour être jugé par les autres, pour être jugé par les autorités religieuses de l'époque avec l'agrément de l'autorité romaine. À la fin de l'histoire, une petite touche personnelle. Pierre vient d'avoir l'occasion de s'engager au service de l'œuvre de Dieu et Jésus lui annonce, Jean 21, versets 18 et 19, comment il finira sa vie. En fait, quand Jésus dit qu'il n'ira pas là où il voudra, qu'il aura les bras étendus, ça annonçait qu'il serait crucifié, ce qui s'est effectivement passé 40 ans plus tard autour de Rome apparemment. Pierre et Jean, proches de Jésus, ont toujours montré des particularités, des caractères différents, des rivalités même. Pierre demande à Jésus, maintenant que Jésus décrit des événements à venir, comment Jean va finir sa vie. Une dernière leçon de Jésus, le pédagogue. Il répond avec une question. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est pas ton problème. Toi, suis-moi, fais ton travail, sans te prendre la tête, sans essayer de savoir ce qu'il adviendra de ton codisciple, de ton frère, de ta sœur à tes côtés. Là encore, Jésus confie un travail, une mission, un service à chacun de ses enfants. Il connaît et respecte nos sensibilités individuelles. Il ne demande absolument pas que nous soyons formatés comme des robots pour exécuter des tâches automatiquement à la manière de combattants fanatisés. À la lecture des évangiles, Jésus nous demande de le suivre et il marche à nos côtés à travers les difficultés de notre vie quotidienne. À nous de rester fidèles et obéissants. Pour conclure, Dieu a envoyé son Fils pour séjourner avec les hommes afin d'offrir à tous les hommes et les femmes une possibilité d'être réconciliés et en paix avec notre Créateur. La loi de Moïse, les 10 commandements observés strictement, permettait d'aller dans la bonne direction pour s'approcher de Dieu. Mais la souffrance, l'acceptation de la crucifixion et la mort de Jésus permet à quiconque croit d'avoir instantanément la vie éternelle. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pendant 40 jours, Jésus est apparu de multiples fois à ses proches, individuellement ou en groupe, pour prouver sa divinité. Les disciples, même les plus proches de Jésus, l'ont beaucoup écouté et pas toujours compris, même après 3 années passées dans son entourage proche. Nous avons lu dans Luc 24 au verset 45 « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. » Nous aussi, nous avons besoin que Jésus nous ouvre l'esprit pour comprendre les Écritures. La parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, nous permet de comprendre que Dieu aime les hommes et les femmes et que son désir est de nous voir vivre en paix les uns avec les autres, réconciliés avec lui, pour nous offrir, en fin de compte, la vie éternelle à ses côtés. Amen.